Vous êtes avec SBS French.
Allez, aujourd'hui dans le programme en français, on va parler de sculpture. On a la chance d'avoir Marion Verbloom avec nous, qui nous vient tout droit de France. On va parler un petit peu de tout ça. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on dit déjà sculpteur et pas sculptrice. C'est important à dire pour les gens qui apprennent le français, qui nous écoutent.
Bon, les deux versions sont possibles. En fait, tout est en train de se redéfinir dans la...
Mais vous dites sculpteur.
J'aime bien dire sculpteur avec un E, même si on ne l'entend pas, mais on peut aussi dire sculptrice, tout à fait, il n'y a aucun problème.
D'accord, alors ça c'est important, parce qu'on a aussi une grosse partie de notre audience qui apprend le français, donc c'est bien de déterminer les mots. Parlez-nous un petit peu de vous, vous êtes ici en résidence, donc vous êtes en Australie en résidence, et c'est via l'université de Monash.
Oui, exactement, j'ai été invitée par le musée d'art contemporain de Monash, le MUMA, pour venir passer un mois et demi à Melbourne, et venir... développer mes recherches parce que je suis sculpteur, j'ai une pratique d'atelier et il n'était évidemment pas possible de ramener tout mon matériel ici, mais une pratique d'atelier se nourrit aussi d'idées, de concepts, de découvertes et c'est ce que je suis venue faire ici en Australie, un pays que je ne connaissais absolument pas.
Et il y a eu de l'inspiration parce qu'il y a quand même une culture ancestrale avec les peuples autochtones, les indigènes. Est-ce que ça aujourd'hui vous l'avez même ressenti même à Melbourne ?
Pour moi c'était vraiment un point d'investigation qui était ce qui était passionnant, à la fois paradoxal et fragile et du coup plein de positionnements à comprendre. Et en fait, moi, ce qui m'a fascinée, mais tout en gardant mes lunettes européennes, mais en essayant d'être respectueuse, je me suis d'abord intéressée à la notion de Dreamtime. Mais pour ce que la terminologie veut dire avec mes lunettes, parce que je n'avais pas le temps en un mois et demi d'aller rencontrer les aborigènes et il faut respecter cette culture.
Et c'est déjà beau de se dire que de votre part de dire en un mois et demi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'intégrer l'intégralité de ce que la culture autochtone peut être.
En fait, je me suis intéressée aux contes, j'ai lu tout ce que j'ai pu, j'ai essayé de réaliser quelques rendez-vous qui n'ont pas forcément été fructueux. J'ai pas réussi parce que le temps me manquait. Ce territoire est vaste et c'est pour ça que le Dreamtime, pour moi, c'est une notion complètement paradoxale parce que le temps dans le rêve n'existe pas. On passe notre temps dans nos rêves, à faire des loopings, à faire des flashbacks. Le temps est complètement détendu. C'est pour ça que pour moi, ça a évoqué quelque chose de magique, fantastique, qui a développé beaucoup de... J'ai beaucoup fantasmé en fait sur ce concept. Après, il était encore trop court pour moi de venir dialoguer avec eux. Donc j'ai posé la question en fait à des gens que j'ai rencontrés ici. Qu'est-ce que cela voulait dire pour eux, le Dreamtime ? Et ça, c'était passionnant. Pas forcément des gens issus de culture aborigène, mais encore une fois, je pense qu'il faut, penser ce concept avec ce qui nous fait aussi. C'est impossible en fait d'enlever les lunettes de notre culture, de notre background.
Vous pensez que c'est impossible ? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faudra plus de travail ? Peut-être le temps est un peu court, mais est-ce que vous pensez que c'est impossible de retirer...
Pas en un mois et demi en tout cas. Je pense qu'il faut être respectueux. Aussi, les aborigènes, c'est une culture très secrète qui veut se protéger, qui a été abîmée en fait par la colonisation. Et je trouve qu'ils ont aussi toutes leurs raisons de le faire. Du coup, il faut les approcher avec respect. En un mois et demi, c'est pas possible.
Absolument.
Ouais. Donc, j'ai fantasmé en fait sur les analogies. Qu'est-ce que le Dreamtime évoque pour moi ? Pour moi, ça évoque plein de choses. Ça évoque une expérience personnelle du rêve. Ça évoque des animaux totems. Ça évoque la psychanalyse, ça évoque le mythe d'Adam et Ève, parce qu'il y a plein de... En fait, dans mon travail, et ça, j'espère que les gens qui viendront pourront peut-être l'apprécier, je présenterai mes recherches antérieures. Je m'intéresse, en fait, à tout ce qui peut rapprocher des cultures qui dans le temps et l'espace ne sont pas rencontrés. Mais l'homme a inventé en fait des mythes, des symboles, des objets culturels dans lesquels on peut créer des analogies. Et donc quand j'ai lu ces contes, les animaux du ciel créés par les aborigènes, j'ai tout de suite pensé, enfin le Dreamtime, c'est l'origine du monde chez les aborigènes, et j'ai tout de suite pensé au mythe d'Adam et Ève. Et donc pour nous, le chaos est venu du savoir, et chez les aborigènes, le chaos c'était le monde parfait, hein, finalement. Donc voilà, donc j'ai commencé à investiguer, et c'est là tous les savoirs que je pouvais, et c'est ce que m'aura apporté cette résidence, et j'espère pouvoir surtout en parler, parce que je découvre les choses avec des yeux assez innocents. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas littéraire, je ne suis pas philosophe, je suis plasticienne, et ça c'est ce qui nourrit en fait ma pratique, mes dessins, mes sculptures. Et j'aime en fait aussi énormément échanger avec les autres, avec avoir leur perception, leur réception des choses.
Et pour vous, en termes de création, est-ce que on peut encore dire qu'il est peut-être trop tôt pour vous ? Est-ce que c'est encore quelque chose qui mûrit dans votre tête, ou vous avez déjà des idées et vous avez hâte de reprendre l'avion et de retourner dans votre studio parce que vous savez qu'il y a telle ou telle chose qui vous attend et que vous voulez faire quelque chose avec ?
Alors, c'est quelque chose qui va mûrir. C'est quelque chose qui va en plus s'hybrider. Ouais. Avec les choses ne sont pas monolithiques dans mon travail, et les apports de connaissances, de surprises que je fais dans le monde, il faut que les choses s'emboîtent les unes dans les autres, et je pense que ce que j'ai découvert ici va probablement s'emboîter avec des découvertes que je vais faire dans des livres, en découvrant un phénomène issu du monde médiéval européen, ou je ne sais quoi encore. Mais j'ai déjà dessiné, je pense que je montrerai quelques dessins, quelques recherches qui ne sont pas un aboutissement en soi, mais qui peuvent être des pistes que je vais forcément continuer ensuite à Paris, dans mon atelier. J'ai été aussi énormément impressionnée par la nature, les roches, les plantes qu'on dirait tout droit sorties du Jurassique. tout ça.
Et la lumière. Parce qu'en fait, moi, les couleurs. J'ai interviewé beaucoup d'artistes dans ce programme, et c'est vrai qu'il y a quelque chose que les gens mentionnent à chaque fois, c'est la lumière, la couleur du ciel, la luminosité, les couleurs qui sont. Et bon, il y a les sons aussi qui sont différents, mais en termes de lumière, pour un artiste, c'est important. Vous voyez une énorme différence.
C'est quelque chose qui est primordial. Finalement, moi, issu de mon Paris gris, j'arrive ici avec ces couleurs orangées. C'est forcément, en fait, c'est comme si le filtre de la lumière créait un écho dans les couleurs. C'est aussi ce qu'on peut percevoir. Je me souviens avoir été très frappée par ça en visitant les États-Unis aussi. La couleur des minéraux, de la roche et la composition des végétaux impactent énormément la couleur. Donc, oui, c'est quelque chose qui va rester gravé, finalement. Et c'est aussi ce qu'on peut percevoir quand on... par exemple, j'ai passé aussi un an, il y a un an, dans la montagne au nord de l'Italie. Ça emprunte, finalement, toute cette variation de couleurs et de spectres lumineux emprunte sur la création. Et que ce soit la sculpture, la réalisation de films, la photographie... ça évoque aussi un imaginaire.
D'accord. Parlez-nous un petit peu de votre parcours jusqu'ici. Vous êtes jeune, on peut le dire, mais vous avez quand même pas mal de kilomètres derrière vous. On l'entend, les États-Unis, l'Italie, l'Australie. C'est important pour vous de voyager à travers ce monde. Et parlez-nous un petit peu de votre parcours jusqu'ici.
Alors, j'ai réalisé il y a 10 ans, je suis sortie de l'École des Beaux-Arts de Paris. Ensuite, j'ai été à Amsterdam pendant 2 ans, où j'ai développé une pratique sculpturale, parce que c'est pas facile en fait de pouvoir se le permettre, un loyer d'atelier, les matériaux qui sont très onéreux.
C'est là où le monde entre guillemets réel rejoint.
Exactement. Il faut quand même être assez pragmatique aussi quand on est sculpteur. C'est pour ça que ça m'a pas forcément. J'ai une pratique artistique qui s'inscrit dans une sorte de grotte. Mon atelier est une grotte dans laquelle j'ai besoin d'y passer énormément de temps. Mais c'est pour ça que ces voyages me permettent aussi de créer une coupure, une césure dans laquelle je vais pouvoir me nourrir pour revenir recharger en fait d'inspiration. Donc après 2 ans à avoir mis en place finalement cette pratique d'atelier, je suis revenue à Paris dans lequel j'ai réalisé plusieurs expositions, la dernière étant à la Fondation Cartier, l'exposition Les Métamorphoses, les artistes européens. Et sinon, je travaille beaucoup à Istanbul, en Turquie, et avec ma galerie bien sûr parisienne. Et là, je prépare une exposition à Amsterdam, je retourne là-bas, avec ma galerie Altuis Hofland.
D'accord, donc ça baroude quand même, tout en restant un petit peu, entre guillemets, une ermite dans votre cave, si vous avez besoin.
Oui, c'est des choses qui sont provoquées aussi, c'est un état de fait. Mais l'inspiration peut aussi venir des livres, mais ça baroute.
Des rêves.
La culture est internationale, donc ce qui fait que j'ai quand même la chance de pouvoir découvrir plusieurs contrées, diversité de gens, de cultures.
Vous avez rencontré d'autres sculpteurs ici, peut-être pour parler de votre expérience à vous en France, comment vous vivez votre vie en tant que sculpteur, et puis peut-être avec des Australiens ici, où c'est peut-être un petit peu plus compliqué ou est-ce que ça l'est? C'est une question en fait ouverte.
Alors, pour en revenir à la notion du Dreamtime, l'Australie est tellement vaste, le temps est tellement réduit, que tout ça s'est concentré et que je me suis vraiment concentrée sur... J'étais obsédée par cette idée de déplacement, comment me rendre d'un endroit à l'autre, ce qui m'a permis quand même de rencontrer certaines personnes. Peu finalement d'artistes, mais j'ai encore du temps devant moi, donc j'espère pouvoir le faire. Et... voilà.
Ouais. Et ces résidences, comme le fait par exemple Monash University, c'est important dans la vie d'une artiste comme vous ?
Effectivement, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça me permet de me sortir de mon atelier, d'aller à la rencontre des gens. Comme j'ai une pratique plutôt solitaire, il faut aussi avoir un regard extérieur, un regard aussi d'une autre culture extérieure sur mon travail, et inversement. Donc les deux, ça va dans les deux sens. Donc oui, c'est quelque chose qui arrive assez rarement, finalement. Je passe quand même beaucoup plus de temps à Paris. Il me faut entre 6 mois et 1 an pour préparer une exposition, donc ça se fait pas comme ça. Je peux pas passer mon temps à barouder à travers la planète. C'est pour ça que cette occasion était vraiment une chance formidable.
D'accord, alors vous allez le partager, cette expérience, je crois, à l'Alliance française, c'est lundi prochain, le 25, à 18h.
À 18h, oui, avec du vin et du fromage.
Bon, ça, les gens qui sont à l'Alliance française le savent.
Oui.
Ça, c'est quelque chose, c'est une constante. Vous savez, on parlait de constante, le vin, le fromage, c'est constant à l'Alliance française. Mais ça va être important pour vous aussi de pouvoir partager cette expérience.
Ah oui, moi c'est justement, j'ai vraiment envie de pouvoir présenter mon travail et avoir un sentiment de qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui seront là, comment fantasment-ils l'expérience du temps ici et l'expérience de l'espace.
C'est intéressant pour vous parce qu'il y a beaucoup de gens à l'Alliance française, c'est pas une critique, mais il y a beaucoup de gens à l'Alliance française qui vont venir vous voir, ils fantasment par rapport à Paris.
Oui.
Il y aura un échange intéressant là.
Ouais. Paris, la ville de l'ornement, où nous ornons nos bâtiments de fausses feuilles, d'alcantes. La nature n'est pas présente, mais elle est faite de la main de l'homme sur les bâtiments.
Ben voilà, c'est un échange que vous pouvez avoir avec eux, parce qu'il y a vraiment cette image presque irréelle. Vous et moi, on est parisiens, moi je suis parisien aussi, on le sait. Au niveau du corps australien, des gens qui vont venir voir, il y en a qui ont peut-être une image un petit peu plus Amélie Poulain. Que réel de Paris, donc ça va être intéressant.
Mais c'est pour ça en fait, moi il faut casser les clichés. La baguette et la tour Eiffel, il n'y a pas que ça.
Mais ça va être intéressant cet échange.
Cet échange va être
intéressant.
Ouais, il me tarde.
Donc c'est à l'Alliance française de Melbourne, c'est lundi 25 à 18h. Merci d'être venu nous voir.
Merci, à bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.